Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous être fidèles ainsi qu'à France Inter. Bienvenue sur la croisette au Palais des Festivals pour un masque et la plume tout à fait spécial consacré, vous le savez, au palmarès très attendu de ce 72e Festival de Cannes, présidé, je le rappelle, par Pierre Lescure et dirigé par Thierry Frémaux, dont nous allons suivre en direct et en partenariat avec Canal+, la cérémonie et que nous allons commenter jusqu'à 21h. Ça nous laisse quand même du temps avec la vigie du festival, notre Eva Bétan de France Inter et les masqués et plumés Sophie Avon de Sud-Ouest, Michel Simon de Positif, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession et Nicolas Chalère de L'Obs. Le jury vient de prendre place sur la scène du Grand Théâtre Lumière. Un jury, je le rappelle, présidé par le cinéaste mexicain de 21 grammes, Alejandro González Iñárritu, entouré de l'actrice Ellie Fanning, des réalisatrices burkinabées Maimouna Ndiaye, américaine Kelly Richard, italienne Alice Rohrwacker, de l'auteur de BD Enki Bilal, des cinéastes français Robin Coppio, grec Yorgos Lanthimos et polonais Pavel Pawlikowski. Ces juges suprêmes avaient à départager 21 films signés par des cinéastes ultra étoilés, dont Almodovar, Bellocchio, Xavier Dolan, Jim Jarmusch qui a fait l'ouverture, et plusieurs palmés d'or, dont Terrence Malick, Quentin Tarantino, Ken Loach, qu'on ne reverra pas, je crois, beaucoup ce soir, ainsi qu'Abdelatif Kechiche, qu'on ne verra pas davantage, n'est-ce pas Eva, les frères Dardenne, eux aussi d'ailleurs deux fois palmés, comme Ken Loach. Et la France, elle était représentée par 5 cinéastes, Céline Sciamma, Arnaud Desplechin, Justine Trier, Ladjoli et Abdelatif Kechiche. On a rarement vu, là je vous pose la question à tout le monde autour de moi ici à Cannes au Palais, on a rarement vu une compétition officielle au moins sur le papier aussi brillante, non ?
Oui, et en plus, Michel, chaque année j'ai une ou deux palmes d'or comme favoris, là j'en avais 4 ou 5, c'est-à-dire que vraiment il y a des films admirables qui étaient en compétition, c'est une des plus riches certainement compétitions.
Mais entre la compétition telle qu'elle était, je dirais, annoncée au début du festival et l'arrivée, donc en ce soir de palmarès, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de déception vis-à-vis de certains grands noms qui étaient annoncés, non ?
Moi, sur les grands noms, c'est moins sur les grands noms, sur les découvertes, moi, que j'ai eu des déceptions. Je trouve que les grands noms étaient vraiment présents. J'espère d'ailleurs qu'au palmarès, ils vont pas hésiter à donner, j'allais dire, des petits prix à des grands noms pour que le palmarès soit le plus cohérent et le plus cinématographique possible. Voilà. Moi, c'est plutôt sur les découvertes que j'ai eu quelques petites déceptions, mais on en reparlera sûrement au cours de la soirée.
Sophie, Eva, Xavier.
Moi, j'ai l'impression de plénitude. J'ai eu l'impression qu'on a vu du beau cinéma. On peut pas faire une moyenne, chaque film est une individualité. Donc, mais l'ensemble...
Pour toi, Eva, c'est une bonne année.
Ah oui, mais l'ensemble, ça vous donne la pêche, je sais pas comment dire. De voir de bons films, plein de bons films, ça vous met en joie. Et c'est ça que je trouve le formidable.
C'est vrai que par rapport aux sélections des années précédentes, on a le sentiment quand même d'un cru... supérieure, non ?
Oui, moi je suis assez d'accord avec toi. Au départ, j'étais très excitée par cette sélection et finalement, au cours de son déroulement, je suis allée un petit peu de déception en déception, alors même que les films sont beaux, c'est vrai, il y a eu de belles choses, mais pas rien qui jamais m'a extraordinairement enthousiasmée.
Ouais, je partage le même sentiment que Sophie. Sur le papier, beaucoup de noms que j'attendais, de films que j'espérais, et à l'arrivée, peu ont transformé l'essai à la hauteur des espoirs que nous pouvions mettre en eux. Bon, après, je suis pas comme Michel, moi, certains grands noms m'ont extrêmement déçu. On aura le temps dans l'année d'y revenir, mais non, je trouve quand même que c'est un bon cru, mais pas à la hauteur de ce que la programmation pouvait laisser espérer. Il y a quand même quelques marches qui trébuchent.
C'est normal en même temps.
Cannes confirme que c'est quand même le grand festival de cinéma au monde, non ?
Ah ben oui, évidemment. Après l'année dernière qui était douloureuse, effectivement, ouais, vraiment, il a rattrapé la déception de l'année dernière avec une flamboyance et une évidence qui a sauté aux yeux de tout le monde.
Puis une très belle tenue d'un certain regard.
Il n'y a pas photo. Ni Berlin, enfin Venise est redevenue important, mais aucun festival au monde ne présente une telle sélection. C'est incontestable.
Notre ami, y compris le dimanche soir, Édouard Baird est sur la scène, n'est-ce pas Eva ? Et il présente cette soirée comme il avait présenté l'ouverture du festival, du 62e Festival de Cannes. Si on l'écoutait un peu, notre ami Édouard Baird.
Une émotion procurée par un film, par un plan, par un mouvement, un je ne sais quoi. It's a little je ne sais quoi. C'est ça qu'on cherche dans l'émotion. Sinon c'est long la vie s'il n'y a pas d'émotion. Bienvenue à la cérémonie de clôture du 72e Festival International du Film de Cannes.
Voilà, c'est parti. Je vous rappelle que vous écoutez Le Masque et la Plume et France Inter, qu'on est là ensemble, je l'espère, les uns contre les autres jusqu'à 21h. Et on va reprendre l'antenne dans le Grand Théâtre Lumière avec Édouard Baird.
Pour remettre la palme d'or du court-métrage, j'appelle la présidente du jury des courts-métrages et de la Ciné-Fondation, Claire Denis, accompagnée de Nadine Labaki, présidente du jury Un Certain Regard.
Est-ce que vous avez vu des courts-métrages les uns les autres ici ? Pas beaucoup, hein ?
On a vu des longs métrages qu'on aurait aimé être plus courts, ça c'est sûr.
Oui, on a vu des très longs métrages plutôt que des courts-métrages. Allez, on l'écoute.
72e Festival de Cannes, Stacy Martin, Cataline Mitolescu, Erhan Kolirin, Panos Koutras et moi-même avons souhaité remettre une mention spéciale à Agustina San Martin pour le film Monstruo Dios.
Merci de vous lever, qu'on puisse vous applaudir, bravo.
Voilà, ça c'est donc la palme d'or du court-métrage dont effectivement on parle en général très peu. Cette année d'ailleurs j'ai remarqué que la moyenne des films était plutôt plus proche de 2h30 ou 2h15 que d'1h20.
Oui, alors il y a quand même, c'était assez agréable parce qu'au début on a commencé en douceur avec des films assez courts, ce qui était quand même une bonne manière de nous faire rentrer.
Tu penses à quoi ?
Ah Les Misérables n'était pas très long, Little Joe, Atlantique.
Les Misérables c'est 1h40.
1h40. Hein.
Bon, même Le Jarmusch.
Le Jarmusch était court pour nous amener vers les grandes œuvres des plus grands maîtres qui là sont arrivés vraiment au même moment à peu près. On a eu Tarantino, on a eu Malick, on a eu Kechiche. Voilà, on a les aïeux au moment du week-end.
Kechiche aurait du mal à présenter le court métrage.
Ça, il aurait dû ouais. Pourtant.
C'est presque 4 heures.
Il a 3h35, c'était 4 heures au début, il a coupé.
Mais il va les remettre.
Il change tous les jours d'avenir.
Comme il ne sera pas ce soir, on le sait, au palmarès, il n'a pas monté les marches. Avant de découvrir de nouveaux prix, qu'est-ce que vous avez pensé rapidement les uns et les autres de ce film d'Abdelatif Kechiche, qui a, mis à part le court-métrage qui contient ce grand film, c'est-à-dire ces 13 minutes qui font beaucoup jaser, oui. Classé X, qui vont d'ailleurs poser des problèmes, à mon avis, pour la distribution en salle de ce film. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce
quitte à être très seul, j'ai adoré ce film. Je le trouve absolument magnifique.
C'est vrai?
Je le trouve très beau. Je trouve qu'il reprend évidemment l'idée de Mektoub Uno Kanto, Canto Uno.
Donc là, c'est Intermezzo.
Intermezzo, avec une radicalité qui est effectivement à la fois force admiration et sans doute met mal à l'aise beaucoup de gens. Je suis pas fan de la scène de fin dont tu parles, de ce court-métrage de 13 minutes, mais je trouve le film hors norme, affranchi de tout, affranchi de la durée, affranchi des règles. Je le trouve magnifique.
Michel?
J'ai vraiment détesté ce film, je le trouve. Alors d'abord, il y a une scène effectivement de 13 minutes, un cunnilingus. Voilà. Et comme je suis pour la parité, je trouve qu'il y aurait dû avoir une fellation. À mon avis, je vois pas pourquoi.
Ah donc il t'a manqué la fellation.
Voilà, absolument.
Néanmoins, lui,
il faut équilibrer. Et puis moi, j'ai pensé à un film de Buñuel qui s'appelle Simon du désert, un chef-d'œuvre de 50 minutes où il y a un anachorète sur une colonne qui est tentée par le diable, par des femmes qui l'utilisent. cuisine, etc. Et il est puni parce qu'il cède à la tentation, il est puni par Dieu, et Dieu l'envoie, pour Buñuel, c'est l'enfer, c'est-à-dire un nightclub avec des gens qui se trémoussent sur de la musique techno.
C'est la trance.
Et je crois que c'est le jugement de Buñuel que je préfère à tout.
Alors, je crois qu'on va, avant de reprendre cette petite conversation sur Abdelatif Kechiche, écouter les résultats, n'est-ce pas, Eva ?
Ça, c'est de la Caméra d'Or.
De la Caméra d'Or.
Qui parlait de son premier
Valeria
film,
Bruni Tedeschi.
Et où elle dit pourquoi elle a ressenti la nécessité de passer de photographe à cinéaste. Et elle dit la raison simple et profonde d'avoir fait son premier film. J'éprouvais déjà, et j'avais 25 ans, la sensation aiguë du temps qui passe et de l'érosion des sentiments qui nous inflige moisissure, rouille, humiliation pas digérée et blessure qui ne se ferme pas. Cela faisait mal, mais un certain plaisir surgissait à voir et à photographier éventuellement ces moisissures et ces rouilles. Pour les blessures de l'âme, la photographie ne me suffisait pas.
On ne sait toujours pas qui est la Caméra d'Or.
Non, mais c'est une
mais
jolie phrase.
Mais on sait ce que pense Valeria Bruni Tedeschi.
Je vais y réfléchir, mais c'est une jolie phrase.
J'ai vu déjà, là, avec le poème en plus, je suis effondré, là. Il faut que je me ressaisisse et je vais mélanger les mots, les phrases.
C'est le cinéaste Ritipan qui remet avec Valeria Bruni Tedeschi la Caméra d'Or.
127 réalisatrices et réalisateurs qui lui ont offert 26 films d'une grande vitalité et dans des genres très différents. Ce sont des films qui sont faits avec beaucoup de grâce, de poésie et du courage. Le jury y voit la promesse d'un cinéma de demain, que j'aimerais bien faire partie encore. Une proposition que nous a séduit à l'unanimité par sa grande force, son humilité, sa dignité et, j'ajoute, sa foi en cinéma. La Caméra d'Or est attribuée à César Diaz pour Nuestra Madres.
Voilà, Nuestra Madres, qui était dans quelle section, Xavier ?
La semaine de la critique. Premier film.
Alors, dites-nous tous les uns et les autres de cette Caméra d'Or. Je rappelle qu'est le prix qui est décerné à un premier film, toute section confondue.
Absolument, c'est un jeune cinéaste d'origine guatémaltèque qui a fait ce film extrêmement intéressant. Il y avait beaucoup de très très bons premiers films cette année à Cannes, toutes sections confondues. Il s'appelle César Diaz, il parle un français parfait qu'on va entendre, j'imagine, dans quelques instants, puisqu'il a fait des études en Belgique. Et c'est un film sur la mémoire et sur la dictature du Guatemala, qui est assez peu connu, hélas.
On écoute la réception de cette Caméra d'Or.
Merci à la Semaine de la Critique, à Charles et à Rémi de nous avoir invités là. D'avoir invité le film, Géraldine Delphine, merci de m'avoir accompagné si longtemps, Pamela Joaquin, l'équipe guatémaltèque, toute l'équipe du film, merci. Je voudrais dédier ces prix aux 250 000 victimes du génocide guatémaltèque. Et surtout à ces femmes qui restent encore debout et qui nous donnent une énorme leçon de vie. Donc merci beaucoup.
Voilà César Diaz qui reçoit la Caméra d'Or pour Nuestras Madres. Nicolas, tu l'as vu également, je crois. Non,
malheureusement.
Qui l'a vu ce film ?
Non, j'avais vu un autre film du Costa Rica, magnifique, mais c'est pas celui-là.
Donc,
en deux mots, c'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille à une morgue légiste, donc il reconstitue les cadavres que l'on commence à déterrer au Guatemala.
Charmant.
Et il croit avoir trouvé enfin un cadavre plus particulier pour soi, pour lui-même et pour sa maman, c'est-à-dire le cadavre du père qui a disparu un jour arrêté par la police de l'époque. C'est un film sur la mémoire, c'est un film qui fait 1h17, qui n'est jamais ascétique, mais en même temps totalement épuré, qui a un sens du cadre, qui a un sens de la mise en scène. Bref, voilà, c'est un vrai cinéaste qui sait le pouvoir des mots, qui sait le pouvoir des images pour raconter une mémoire enfouie, qui n'est pas dans la victimisation de misérabilisme, mais qui au contraire dans l'importance d'une mémoire réactualisée pour faire un deuil pour un pays, l'Amérique latine, entre autres le Guatemala qu'on a oublié. C'est un excellent choix, j'en ai vu beaucoup des premiers films, mais je trouve qu'effectivement celui-ci restait dans le top 5. Donc bravo à Ritipan et à son jury d'avoir décerné une vraie force vive du cinéma actuel.
Puisque on en était avant à évoquer le film qui repartira bredouille d'Abdelatif Kechiche, un mot de Xavier, peut-être d'Eva et de Nicolas.
Oui, alors moi je trouve que c'est vraiment un film symptomatique de quelque chose qu'on avait un peu vu disparaître à Cannes l'année dernière. C'est de présenter en fait des films qui sont pas terminés. C'est-à-dire que Cannes souvent est utilisé comme une grande projection test où les cinéastes viennent avec des films avec cette espèce de dédain même pour les autres concurrent de venir et de montrer un film qui est pas fini. Moi, je pense que dans ce film, il y a un grand film, mais il faut qu'il finisse ce montage. Il est pas fini, le film. Et le problème, c'est qu'on a vu via ce pré-montage tout ce que Kechiche peut avoir de terrible dans son voyeurisme, dans sa manière d'aborder, de filmer. On en reparlera plus précisément quand le film sortira. Mais il y a vraiment quelque chose de très gênant dans ce film qui, je pense, s'il avait travaillé le montage plus longtemps, aurait été. Donc voilà, il aurait dû le présenter en séance de minuit comme les Gaspard Noé pour les aficionados qui auraient vu un work in progress. Mais le mettre en compétition, je trouve que vis-à-vis des autres candidats, c'est pas très respectueux.
Eva.
Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire chez... Il est unique, Kechiche. On a l'impression qu'il est... Il se dit, mais comment je vais faire pour que l'écran palpite pour attraper la vie? Et ça, c'est inestimable. Moi, j'aime pas les boîtes de nuit, même quand j'étais 20 ans, j'étais la fille qui avait 20 ans qui restait assise sur la chaise. Hein. Et je suis plutôt prude.
Je suis plutôt prude.
Et ben, pourtant, j'ai passé 2 heures dans une boîte de nuit. Je suis prude comme tout. Et ben, voilà. Donc, de même que j'aime que les flippers et j'adore quand Mac McCarthy. Donc, c'est ça, c'était. Et qui écoute, ça se passe dans la nature. Donc, c'est le meilleur exemple qui est de la talent d'un cinéaste ou d'un écrivain, c'est qu'il veut vous faire aimer des choses qui sont pas
votre monde. Des grands avantages du Festival de Cannes, c'est qu'on sait tout sur Eva Bettan.
Eva, on peut pas dire que c'est un film sur les boîtes de nuit, c'est un film où la caméra de Kechiche est fixée obsessionnellement
sur les fesses,
sur l'arrière train des femmes. Et je trouve ce regard absolument, comme disait Nicolas, voyeur, obsessionnel, indécent. Indécent.
Mais le cinéma est indécent, Michel.
Non, ça veut rien dire.
Même du cinéma, bien sûr que le cinéma est inquiétant.
Les travelling sont affaires de morale. Le regard de Kechiche dans ce film est obsessionnel et indécent.
Et le respect des critiques à un autre, c'est d'écouter la phrase jusqu'à la fin, histoire de ne pas les attaquer sur quelque chose qu'ils n'ont pas encore dit. Merci, Michel. Moi, je suis un peu du côté de Sophie pendant 2h30, que je trouve flamboyante, que je trouve obsessionnelle, que je trouve vraiment stupéfiante dans tous les sens du terme. Hypnotique. Voilà. Et on avait déjà fait parler. Et puis, il y a cette scène de Cunilingus, puisque Michel Simon, obsédé
de
les
13 minutes exactement. 13 minutes.
Et après, j'ai l'impression qu'effectivement, là, tu as cité le nom de Gaspard Noé. On a un film de Gaspard Noé. C'est un truc pas monté, qui va finalement prendre le pouvoir sur nous, qui nous éreinte, qui nous épuise, qui semble répondre à des détracteurs. Mais qui semble répondre à des détracteurs qui ne sont pas dans la salle. Nous, on avait aimé le premier Mektoub, dont j'y allais avec bonheur voir celui-ci.
On avait même beaucoup aimé.
Beaucoup aimé. Et j'ai l'impression que là, il nous dit, ah, vous m'avez reproché ça, ben, je vais vous en mettre encore plus. C'est dommage. Je pense que, voilà, Nicolas a raison. C'est assez rare pour le souligner. Ça manque effectivement d'une table montage, mais, et en même temps j'ai très envie que Sophie ait raison dans le futur, c'est-à-dire que le grand film qui est là soit accouche.
Et dans tout ça, il y a surtout une actrice formidable qui, moi, je trouve mériterait le prix d'interprétation, qui est Ophélie Beau, dont le personnage et son interprétation au-delà des toilettes, des 15 minutes, des 13 minutes de toilettes,
on va en reparler là. Donc,
ils sont tous très bien.
Si ça vous avait échappé, vous écoutez bien Le Masque et la Plume, Michel, et on parlait d'un film qui n'est pas encore sorti et qui ne sera pas ce soir au palmarès, c'est le nouveau film d'Abdelatif Kechiche, Mektoum My Love, Intermezzo. En attendant les résultats que nous allons suivre.
Là, Edouard Baird est en train de dire que cette année, le jury a décidé de remettre une mention spéciale et c'est Kara Mastroianni qui arrive pour la remettre.
Alors, nous allons écouter
le film de Christophe Honoré, Chambre 212.
Depuis le Théâtre Lumière, ici, au Festival de Cannes.
Oui, Kara. Oui. Vous voulez nous expliquer ce qu'une mention spéciale ou demander au président?
Non, pas spécialement, non.
Très bien.
Alors, donc, on y va?
Oui, demandez au président.
Monsieur le Président, à qui attribuez-vous la mention spéciale?
With a special award?
Oui, bon, ça, je pouvais le faire aussi, hein.
More or less?
Kara qui joue dans le
anglais, c'est incompréhensible pour les anglophones.
Ah, oui. Pour moi aussi, hein, cela dit.
Mention spéciale, what is that? Special mention.
My French is worse than your
English. Mon français est bien pire que votre anglais.
On aurait pu se mettre en smoking quand même, Robin, vous avez pété un câble. C'est tous des efforts.
I got it.
Il y en a pour des millions de locations.
Ok.
Ça y est, je l'ai. Donc.
C'est le président Iñárritu.
I've never been in this place.
Okay. J'ai jamais occupé cette fonction avant. Le prix spécial ce soir est attribué à
Elia Souleymane. Je crois que c'est la création de la mention spéciale. Oui. Je n'avais jamais entendu parler depuis le temps que je viens dans ce festival.
Ça doit être parce qu'ils avaient beaucoup de films à qui donner les prix et ils ont inventé un prix de plus.
En général, c'est le prix anniversaire. Ils inventent des prix anniversaires de la 70e édition ou juste comme ça. Là, c'est mention spéciale.
Alors, on écoute chapeau, s'il vous plaît, Elia Souleymane.
C'est bien sûr les producteurs de ce film qui ont travaillé très dur pour le concrétiser. Mon épouse qui m'a accompagné pendant tout ce projet. Et un grand merci à l'institut sans lequel ce film n'aurait jamais vu le jour. Merci.
C'est donc Elia Souleymane qui recevait, Eva, cette mention spéciale pour ce film. Ça doit être le paradis qui signifie d'ailleurs 10 ans après Le Temps qui reste, son retour au cinéma et au Festival de Cannes avec un personnage très tatiesque, je sais pas si ça se dit, qui va traverser Paris le 14 juillet et terminer à New York et croiser d'ailleurs à Paris son propre producteur qui est Vincent Maraval
qui fait ses débuts. Et le film ayant commencé à Nazareth, à chaque fois des petites saignettes. Et en creux, mais sans insister, il sort ce que c'est que d'être un citoyen sans pays, reconnu comme pays.
Elia Souleymane, on en reparlera tout
à l'heure.
Il doit
être un peu déçu.
Et oui, à mon avis, il pensait être plus haut dans le palmarès. Michel, un mot peut-être avant qu'on en reparle. Je vous rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, on va en détail, comme pour un vrai Masque et la Plume, revenir sur chacun de ces primés. Sur le Souleymane, Michel, peut-être quelques mots.
Oui, c'est un film léger, très bien filmé, avec un humour à froid. Il abuse un peu de l'impassibilité. C'est-à-dire, il a un rôle à la Buster Keaton ou à la Jacques Tati.
Oui, c'est ça, Tati, oui.
C'est charmant, c'est merveilleux parce que c'est sur un sujet grave et qu'il traite avec énormément d'humour sur la Palestine. Il y a une scène avec justement le producteur français qui lui explique qu'il voit pas tellement beaucoup la Palestine dans ce projet. Donc je pense que c'est bien de distinguer Souleymane qui n'a pas fait de film depuis 11 ans.
Alors, Céline Sciamma, prix du scénario.
Prix du scénario, là aussi, certaines rumeurs plaçaient un peu plus haut dans ce palmarès. Il s'agit donc de Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma avec Adèle Haenel et Noémie Merlant. On écoute Céline Sciamma.
Scénariste. ce prix, il me ramène à ma solitude initiale et elle est totalement contredite par la suite de l'aventure, puisque ça a été qu'une ronde de regards et que cette ronde de regards collaborative, c'était la plus belle aventure de ma vie de cinéaste. Donc permettez-moi de me détacher de cette récompense et puis de parler des gens qui ont donné la vie, de parler du regard de Claire Maton, chef opératrice, du regard de Delphine Dau, l'assistante mise en scène, du regard de Christelle Barras, directrice de casting, du regard de Julien Lacheret, monteur, du regard sous lequel j'ai grandi, de Bénédicte Couvreur, ma productrice, et puis du regard d'Adèle Haenel et Noémie Merlant. À qui, bien sûr, je dois un merci éternel. Et à 12 ans d'écart, elles ont passé la porte et j'ai vu le futur. Voilà, merci.
Céline Sciamma, je le rappelle, Naissance des pieuvres en 2007, Tomboy en 2011 et puis bien sûr Bande de filles en 2014. Oui, Eva, on pensait qu'elle aurait peut-être davantage que ce prix.
Oui, et alors peut-être qu'on imagine que les gens vont dire plus que merci, merci. Son film part de la naissance d'un amour entre deux femmes au 18e siècle, dans une période contrainte.
C'est son premier film historique, d'ailleurs.
Elle le fait avec une sorte de naturel insolent qui est magnifique. Elle parle aussi du comment même l'histoire d'amour qui s'arrête n'est pas un échec. Donc c'est très beau. On aurait pu attendre un discours plus fort parce que c'est une fille qui a des choses à dire, mais peut-être que l'émotion fait qu'on fait pas les grands discours.
La déception. Peu,
et un peu la déception peut-être aussi. Et maintenant nous allons assister.
Le prix d'interprétation.
Écoutez en direct la réception du prix d'interprétation.
Chacune
masculine.
Des actrices que le jury a pu voir dans ce festival a été à la fois différente, singulière et multiple. Car savoir être à chaque fois différente et à chaque fois nous surprendre, c'est ça le talent d'une actrice. Alors, Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire qui est l'actrice que vous et votre jury avez choisi de distinguer ce soir?
Okay, so...
Donc, le prix d'interprétation féminine est attribué à
Emily Beecham from Little Joe, directed by Jessica Hausner.
Je vous prie de m'excuser, c'était pas une interprétation masculine mais féminine. Eva,
oui, donc
pour
actrice
Little Joe.
Anglo-américaine de 35 ans. Elle avait joué notamment avec les frères Cohen. Elle n'est pas très connue de nous. Elle joue le rôle d'une chercheuse
phytogénéticienne.
Voilà, un truc très compliqué à dire, mais c'est-à-dire qu'on fait pousser des plantes, je dirais, transgéniques, et c'est une plante qui donne le bonheur. Et au bout d'un moment, elle se dit, mais peut-être que finalement, c'est pas terrible parce que ça change un peu le cerveau. Donc c'est très stylisé comme film.
C'est une Anglaise dans un film d'une Autrichienne.
Exactement.
Qui est Jessica Hausner.
Tournée en anglais.
On l'écoute.
J'ai oublié ma brosse à dents. Merci beaucoup. Merci, Jessica Hausner, de m'avoir choisie pour faire partie de votre film. C'était un immense honneur. C'est magnifique. C'est un film magnifique. Merci infiniment.
Voilà. On reparlera tout à l'heure peut-être de toutes ces comédiennes qu'on a tellement aimé dans ce festival et qui, évidemment, se voit rafler ce très beau trophée par Emily Beecham pour un film dont on reparlera tout à l'heure. Michel ?
Oui, c'est un film, il a été plutôt mal accueilli, mais c'est un film assez conceptuel, mais ça change tellement du cinéma tranche de vie que moi, j'étais assez passionné. Je pense que René ou Greenaway auraient pu traiter ce sujet, et je pense que Jessica Hausner est une cinéaste très intéressante à contre-courant de tout ce qui se fait.
Oui. On a le droit, à Xavier, de...
On a le droit de trouver ça quand même extrêmement vain, totalement creux et totalement prétentieux dans la mise en scène. Si vous avez envie d'une version intello, d'une publicité pour parfum chic, que vous trouverez Place des Victoires, enfin, c'est un petit peu à ce niveau-là, quoi, que ça se situe. C'est très insistant, c'est très tape à l'œil et c'est très vide. Voilà.
Voilà, c'est ce qui reste de Little Joe, à moins que Eva ou
non,
Sophie...
Non, moi, je suis assez d'accord. C'est une fable philosophique qui est intéressante quand on pose la question du bonheur. Est-ce que ça vaut le coup de renoncer à son humanité quand pour être heureux? Mais je trouve que la réponse est très, en effet, en deçà de la question posée.
Non, mais le sujet est
intéressant. Nicolas,
le sujet est intéressant.
Si cette plante a vraiment des effets, ou si cette femme, les névroses de cette mère qui déforme tout. Après, c'est un sujet pour un épisode de Black Mirror de 30 minutes qu'elle dilue.
C'est la fin la plus ridicule de l'histoire du festival de Cannes, quand même.
Par contre, l'actrice est très bien. Elle est dans la micro-nuance et dans tout ça.
Mais quand on voit ce que fait Virginie Efira dans le film de Trier, par exemple, voilà.
C'est pas la micro-nuance. Il faut aller au microscope pour voir la nuance, là, quand même, Nicolas.
Eva, qu'est-ce que vous nous annoncez maintenant?
Qu'on m'annonce le prix de la mise en scène, qui n'est pas un petit prix quand même.
Donc, on va passer directement, en fait, au prix de la mise en scène.
Remis par Viggo Mortensen.
Remis par Viggo Mortensen, soi-même.
Sublime. Qui parle en français.
De tout un peu. Je savais qu'elle était malade. Et je voyais qu'elle était un peu épuisée. Mais parler de nouveaux projets et de l'art de la mise en scène comme s'il avait tout le temps du monde. Vers la fin du vol, elle a dormi un peu. Je la regardais, prêtant l'oreille à sa douce respiration. Et je pensais à une chose simple, mais très importante, qu'elle venait de me dire. Et c'était que pour bien raconter, pour faire du bon cinéma, il ne faut pas montrer. Il faut simplement donner l'envie de voir. Alors, qui a mieux su donner l'envie de voir cette année? Monsieur le Président...
C'est un hommage, il me semble, à Agnès Varda.
À qui allez-vous donner le prix à la mise en scène?
Ok.
Le Président y a
été. Le prix de la mise en scène est attribué à...
Pierre-Luc Dardenne pour The Young American.
Et voilà encore un prix pour les frères Dardenne, qui en reçoivent je ne sais combien, déjà deux palmes d'or au Festival de Cannes, et donc ce nouveau prix, Eva, pour le jeune Ahmed.
Oui, qui est l'histoire d'un jeune garçon radicalisé, mais jeune, c'est-à-dire
jeune, 13 ans,
c'est
Ahmed.
Vraiment, il est en
il
posant la
petit,
question dans l'enfance,
Ben Hadi.
Voilà, et c'est pas l'avant de les est brossé à grands traits. Et ce qui les intéresse, c'est l'après. Comment on fait quand quelqu'un est dans une carapace pour pénétrer la carapace? Et ils font un film où ils vont poser d'un cinéma de vie à une idéologie mortifère, c'est-à-dire que c'est par les brins d'herbe, c'est par le fait qu'il va à un moment dans une ferme. Merci. C'est par ça on dit, mais est-ce que, comment on peut le faire revenir à la vie?
Jean-Pierre et Luc Dardenne, je ne sais jamais qui est l'un, qui est l'autre, mais on les écoute ensemble.
Une ode à la vie. Nous avons filmé un jeune fanatique religieux dans ces temps sombres, difficiles, où les populismes identitaires montent, où les crispations religieuses montent également. Et en filmant cela, nous avons voulu vraiment filmer un appel à la vie, à la différence, à l'ouverture à l'étranger, à la vie, ce qui est aussi la mission, la vocation du cinéma. Merci.
Le problème, c'est qu'on est deux et que je vais faire bref. Je voudrais simplement remercier, comme mon frère remercier le jury, bien sûr, remercier toutes les personnes qui nous accompagnent depuis le début dans cette aventure, particulièrement Delphine Thompson et Denis Frette. Et je pense que tout le monde comprendra que nous tenons à remercier spécialement le jeune Idir qui a si bien interprété Ahmed. Merci.
Le jeune Ahmed, le huitième film des frères Dardenne, qui reçoit donc le prix de la mise en scène après avoir été double palmé d'or pour Rosetta, c'était en 1999, et L'Enfant, c'était en 2005. Un thème, je le rappelle, Eva, quand même, qui est celui, à peu de choses près, du dernier film d'André Téchiné, L'Adieu à la nuit.
Et là, clairement, ils disent, c'est le fait qu'il y ait eu des attentats, le fait qu'il y ait eu, la Belgique soit, par certains moments, des foyers d'islamistes, on dit comment on
c'est
répond.
C'est aussi la Belgique
la
de
question,
Malenbeek,
c'est comment on répond par le cinéma. Voilà, leur questionnement était celui-là.
Oui.
Et en mettant dans l'enfance, il jette un trouble, parce qu'on ne peut pas rejeter un enfant, on est obligé d'essayer de le sauver.
Oui, je ne crois pas dire de bêtises, les Dardenne sont peut-être les seuls cinéastes à avoir eu tous les prix.
Oui,
à
c'est
Cannes
ce que
je, possible.
Quasiment tous.
Ils ont eu deux palmes d'or, je crois qu'ils ont un grand
scénario.
Prix.
Ils ont eu le scénario, ils ont eu le grand prix.
Mais comme le disait l'un des deux, ils sont
oui.
deux.
Bah, si on en donnait à deux à chacun, un chacun fois deux, on n'a pas fini. On n'a pas fini.
Michel.
Oui, je pense que c'est un pas plus qu'à maintenant, même s'il y a des immenses films qui ne sont pas encore mentionnés, qui ne seront peut-être pas mentionnés, c'est un palmarès, c'est de même de metteur en scène. C'est-à-dire que, par exemple, le film de Céline Sciamma, c'est plus le scénario qui m'a séduit que la mise en scène. C'est un film qui est victime un peu du syndrome du film en costume, un peu raide. Et là, au contraire, c'est un film de mise en scène. C'est-à-dire que si on réduit le scénario du Little Ahmed, c'est pas un scénario particulièrement.
Il y a
c'est
Michael
pas,
Moore
c'est pas
qui
important.
Prend la
Alors,
on va voir s'il va profiter de la tribune.
On revient au Théâtre Lumière.
Voilà. Michael Moore.
Avec Michael Moore.
62e Festival de Cannes. That's the extent of my French for tonight.
Voilà, Michael Moore qui va remettre le prix du jury.
Ce sont les limites de mon
Pablo
français.
Exactement.
Pablo Picasso disait que l'art est un mensonge qui nous fait saisir la vérité. Ou bien comme on dit en Amérique, Trump est le mensonge qui nous permet d'autres mensonges.
Ça, Michael Moore ne pouvait pas la manquer.
L'art, aux périodes sombres, a pu sauver l'humanité des autocrates, des imbéciles, et ce sont les artistes, en l'occurrence les cinéastes, qui ont poussé les foules à ne pas abandonner, à ne pas désespérer, à réfléchir, à rire de la folie, à pleurer les pertes, à s'élever contre cette folie et à la vaincre par l'amour. Et comme le disait également Picasso, tout ce que vous pouvez imaginer est réel. Le prix du jury est l'héritier d'une tradition fidèle à cet esprit, pour ne citer que quelques lauréats, le septième sceau, All About Eve, La Ventura, le procès de Jeanne d'Arc, Abattoir 5. Donc le lauréat de ce soir est donc en bonne compagnie. Monsieur le président du jury, Alejandro.
Le président Iñárritu va donner le nom du lauréat du prix du jury.
Le prix du jury ce soir pour le prix de 2019.
Plus ou moins ce que vous disiez, et curieusement, en l'occurrence, pour ce prix en particulier, il y a deux films récompensés, et c'est la seule fois où on a la possibilité de voir primer deux films. Donc nous avons considéré qu'il fallait récompenser ces deux films pour ce prix-ci, le prix du jury.
Les Misérables from Ladji Lee.
Les Misérables, Eva, de Ladji Lee.
Bacurau for Clever Mendoza, Filho and Giuliano Dornelles.
La France et le Brésil.
La France et le Brésil, la France avec Ladji Lee, je fais vite, hein, qui dit attention, les banlieues vont claquer et les jeunes n'accepteront pas tout ce qu'on a accepté. Et le Brésil, c'est une sorte de fable, mais qui monte aussi, je dirais, les rapports Nord-Sud. Il faut savoir aussi que Kleber Mendoza Filho disait que c'était très important qu'il soit là quand on sait la manière dont Bolsonaro juge les artistes. Et il avait dit carrément, quand je l'avais interviewé, il considère qu'on fait de la merde et qu'on soit à Cannes aujourd'hui est aussi une réponse. Donc c'est voilà.
Alors, c'est aussi un palmarès très politique, Eva.
Mais, totalement, totalement. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de Français Palme d'Or, quoi. Et ça dégage la place.
Alors,
pour,
on écoute pour, tout de suite
Ladji Lee.
Merci. Le réalisateur des Misérables. 39 ans, qui a grandi au Bosquet et dont le film est aussi un portrait des cités de Montfermeil.
Je vais remercier Thierry Frémaux. Merci à Thierry d'avoir eu l'audace de choisir ce film dans la compète officielle. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très content, très ému. Merci aux membres du jury. Merci beaucoup d'avoir cru en ce film. Vincent Maraval, Jean Labadie, une sacrée équipe. Merci les gars. Mes producteurs, bien sûr. Je vais demander de venir parce que c'est important d'être là à mes côtés. Toufi Kayadi, Christophe Barral.
Ça aussi, c'est une première que sur la scène arrivent tous les producteurs d'un film, en l'occurrence donc des Misérables.
Déjà, merci aux comédiens ici présents. Ah, Alexis Manenti, Damien Bonnard, Djibril Zanga, bravo les gars.
Qui joue les trois flics de la BAC.
Julien Poupard, un homme extraordinaire, merci pour ton image. À Flora Volpellière, ma monteuse qui est extraordinaire, qui est sans doute la meilleure monteuse au monde. Je suis très content de bosser avec elle, vraiment. Ma clique Courtragemé ici présente, Kim Chapiron, Romain Gavras, Mouloud Achour, JR, Osmo Puccino, Vincent Cassel et tous les membres, parce qu'on est beaucoup. Toumani Sangaré, chef du village de Garalo. Merci les gars pour cette aventure. Montfermeil les Bosquets, j'oublie pas d'où je viens, c'est important. Super important. Voilà. C'est juste dire qu'aujourd'hui c'est possible, hein, on part de rien, on n'a pas fait d'école de cinéma, ça fait 20 ans qu'on se bat et finalement aujourd'hui on se retrouve là en compétition officielle, c'est beau. Merci à ma famille. Je ne vais pas citer tous les noms parce qu'on est beaucoup, à la famille Lee, Sai Sai, Boon, Amon, mon frère, toute ma famille, ma mère, mes enfants, Abby, Eladj, Alassane, je vous aime très fort, à ma femme. Et je suis heureux, vraiment, je suis vraiment heureux. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce festival et Edouard Veil, bien sûr. Bravo Edouard et merci. C'est cool. Hein.
Voilà, vous écoutiez Ladji Lee qui reçoit 39 ans, qui est passé directement de Montfermeil au Festival de Cannes. Je pense qu'il va laisser un petit peu de temps quand même.
Les rapports entre différentes communautés dans ce territoire. Et en fait, le seul ennemi en commun qu'ils ont, c'est la misère. Enfin, le seul ennemi en commun qu'il y a entre ses habitants et les policiers, c'est la misère. Donc je vais dédier ce prix à tous les misères de France et d'ailleurs. Merci.
Et maintenant, j'imagine qu'on va écouter Kleber Mendoza Filho pour Bacurau. Je voulais
mandar beijo para todo mundo vendo no Recife, Pernambuco, Brasil. I have to get that in.
Members of the jury,
je tiens à remercier les membres du jury, le président. Ça fait maintenant 20 ans que je viens au Festival de Cannes. C'est ma 20e année. Et tout au début, j'étais un journaliste de cinéma, j'étais un critique de cinéma. Et j'ai découvert de nombreux films ici, dans la salle Lumière, mais également dans la salle Debussy, à la quinzaine des réalisateurs, à la semaine de la critique. Donc ça m'a un petit peu, ça me fait un peu bizarre de me retrouver maintenant ici de l'autre côté du public et recevoir ce prix du jury dans une compétition aussi magnifique.
Kléber Mendoza-Filho, qui a fait effectivement Les Bruits de Récif en 2012 et qui a même réalisé récemment un film sur le masque et la plume, où on voit Michel Simon longuement interviewé.
Sur la critique.
Et sur la critique en général.
Et je me tourne vers le public brésilien et je vais dire deux mots en portugais.
Talvez dizer que Bacurau foi um filme que envolveu o trabalho de muita gente, certo? De vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil. E essas pessoas, elas trabalharam duro para que esse filme ficasse pronto e hoje pudesse estar aqui sendo honrado dessa maneira. E eu acho que eu dedico esse prêmio para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, da ciência, da educação e da cultura. Obrigado.
C'est un film qui est co-réalisé. Donc ça, c'est l'autre co-réalisateur, Juliano Dornelas. On va peut-être avoir la traduction.
Le décorateur, semaine extraordinaire au Brésil. Hier soir, notre film a emporté également un prix à Un Certain Regard et maintenant ce prix ici, nous sommes des ambassadeurs de la culture, nous travaillons pour la culture au Brésil, ce dont nous avons besoin, c'est de votre soutien et de votre respect.
Kléber Mendoza-Filho ainsi que Juliano Dornelas pour Bacurau, co-récipiendaire donc de ce prix avec Les Misérables de l'Adjoli dont nous reparlerons dans quelques instants. Il est 20h02. Vous écoutez Le Masque et la Plume, vous écoutez surtout France Inter. Nous sommes en direct depuis le palais du Festival de Cannes pour vous faire vivre avec toute l'équipe du Masque, mais également avec Eva Bétan pour vous faire suivre le palmarès, la cérémonie du palmarès de ce 72e Festival de Cannes. Plus ça monte et va, plus on va évidemment
vers la Palme d'Or. Il manque d'or. Aussi le Grand Prix.
Il manque le Grand Prix.
Et l'interprétation masculine.
Mais ce sera Banderas.
Ouais, c'est intéressant de savoir qu'ils ont déplacé l'acteur un peu plus tard qu'une manière de rapprocher l'acteur de la Palme d'Or. Enfin,
pour
si c'est Banderas qui l'a bien pour s'excuser d'une certaine manière auprès d'Almodovar.
Absolument. Voilà. Alors, nous écoutons à nouveau Édouard Baer qui va, j'imagine, présenter. Voilà, pour l'annonce du prix d'interprétation masculine.
Bonsoir. 大家晚上好. Best Actor Award. I would love to have one.
Le prix d'interprétation masculine. J'aimerais bien en avoir un, mais ça ne sera bien sûr pas de mon vivant. Toutefois, c'est un honneur pour moi de présenter un prix d'interprétation masculine ce soir pour un film.
L'actrice chinoise Zhang Ziyi.
Il faut bien sûr une vision du génie de la part du réalisateur, mais aussi il faut reconnaître le travail des acteurs. Ça fait toute la différence. Monsieur le Président, à qui est attribué ce prix?
Le prix de l'interprétation masculine va à
Antonio Banderas, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.
Voilà, Antonio Banderas pour ce film de Pedro Almodóvar. Douleur et gloire auquel dimanche dernier sur France Inter dans Le Masque, je prédisais, j'ai peut-être eu tort, la Palme d'Or. Que peut-être je lui souhaitais un peu trop. Voilà, très beau prix pour ce comédien qui joue pendant 1h50 le rôle du réalisateur.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est le double en quelque sorte qui a le prix.
C'est Taguibusha.
Voilà, qu'on va écouter Antonio Banderas recevoir ce prix.
Vous n'avez pas idée de combien j'aimerais pouvoir parler français, mais je ne peux pas.
Et en même temps, je ressens le besoin de parler espagnol parce qu'il s'agit d'un film espagnol et que c'est mon pays que je représente. Je représente le cinéma espagnol, donc je vais essayer de faire une sorte de paella avec les deux langues, anglais et espagnol. Lorsque je montais les marches et j'ai vu Talisimo, il m'a dit « Combien de temps ça t'a pris pour venir ?» Alors, je pense qu'il me demandait avec le recul si je venais d'Espagne ou de Londres, mais ma première réponse a été 40 ans. 40 ans. C'est un prix pour lequel je suis très reconnaissant en mon nom, en tant qu'acteur, mais aussi pour mon personnage. Et même si le personnage s'appelle Salvador Mayo, il ne fait de mystère pour personne que Salvador Mayo, c'est Pedro Almodovar. J'ai rencontré Pedro Almodovar il y a 40 ans. On a fait 8 films ensemble. Je le respecte, je l'admire, je l'aime. C'est mon mentor. Et il m'a tellement, tellement donné tout au long de ma vie que cette récompense, évidemment, doit lui être dédiée. Parce que on a parcouru la vie, notre vie professionnelle. Tout le monde pense qu'on vit sur un tapis rouge, mais c'est pas vrai. On souffre beaucoup, c'est beaucoup de sacrifices et c'est beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs derrière le métier d'acteur ou d'artiste en général. Mais il y a également des soirs de gloire. Et ce soir, c'est mon soir de gloire. Je souhaite le célébrer, le fêter, en disant quelque chose qui vient du cœur, du fond. Le meilleur est encore à venir. Merci infiniment.
Antonio Banderas, ce qui veut dire aussi, Eva, que ben voilà, Pedro Almodovar n'a jamais eu et n'aura sans doute jamais la Palme d'Or.
Encore une fois. Mais c'était très élégant, cette manière de dire, voilà.
Je lui la donne par
procuration. Il l'a fait avec beaucoup de... Il pouvait pas aller plus loin, en quelque sorte. Il peut pas dire, mais enfin, vous êtes fou, vous lui avez rien donné. Il fait, voilà.
Mais il est formidable. Et pour l'avoir rencontré comme nous tous, je pense, avant le festival, je lui disais, vous savez que si vous avez le prix d'interprétation, parce qu'on trouve Frousse formidable, ça veut dire que Perrault n'aura pas. Et il me disait, non, faut qu'on ait la palme, là, cette fois-ci. Donc c'est assez émouvant de voir que, cette déclaration, c'est aussi, c'est dans la lignée du film, quoi. C'est assez beau. J'ai trouvé son discours très beau.
C'est douleur et gloire.
C'est ça, c'est exactement ça.
C'est douleur et gloire, sa déclaration.
C'est vrai que l'ironie, c'est qu'il donne à Almodovar le prix à travers son double, à travers son acteur. Et en même temps, la presse internationale et la presse française donnaient Almodovar comme Palme d'Or.
Film qui d'ailleurs est déjà sorti, on en a parlé, je le disais, au Masque la semaine dernière, et qui remporte un très grand succès en salle, c'est-à-dire que c'est peut-être le seul film primé ce soir que les auditeurs peuvent regarder, peuvent voir et continuer à lui faire un succès parce que c'est, on va en reparler un petit peu tout à l'heure.
C'est Stallone, là.
Un très beau film. Stallone sur la scène du Théâtre Lumière ici au Festival de Cannes. Il y a beaucoup d'Américains cette année, à Cannes.
Pas Marès, en tout cas.
Écoutons Sylvester Stallone.
Drôlement habillé, mais bon.
Wow. OK. On a film set.
Sur un tournage, le metteur en scène est le capitaine. Lui seul connaît la feuille de route, lui seul, en cas de tempête, sait mener l'équipage à bon port. Tous sur le plateau, des comédiens aux techniciens, sont avant tout ses interprètes. Monsieur le Président, qui remporte le Grand Prix ?
Le Grand Prix annoncé par le Président Iñárritu.
Atlantic pour Matty Diop.
Eva.
Ça fait un prix très très haut pour Matty Diop. C'est un premier film. Elle est franco-sénégalaise. Elle tourne, elle part de l'immigration du côté des pays, du pays de départ. C'est-à-dire qu'un jour, la petite copine arrive et on lui dit les garçons sont partis. Ils sont partis en pirogue pour essayer de rejoindre l'Espagne.
Encore une fable politique.
Mais tout à fait.
Décidément, tout à ce fait. Soir. On écoute Matty Diop.
Okay.
Je vais demander à mes amis et productrices de venir me rejoindre, à mon amie et monteuse de venir me rejoindre aussi, et à Omar Sall, le producteur sénégalais du film, de me rejoindre. J'ai besoin de vous.
Venez, toute l'équipe.
Maintenant, on se croirait au César.
Ah, ils ont plus de temps qu'au César. Ça, c'est au moins l'avantage à Cannes.
Et j'ai toujours eu besoin de vous. Et ça continue.
Pour son film, donc, Atlantique.
Je suis profondément honorée et heureuse d'être parmi vous. Je trouve ça un peu fou. Ok. Non, ça. Merci infiniment pour votre confiance. Qui, je pense à la fois aux toutes premières personnes qui m'ont fait confiance au moment où j'ai autoproduit mon premier court-métrage à Dakar. Je suis partie faire ce film un peu toute seule et quelqu'un a cru en moi. Cette personne, c'est Corinne Castel, et à qui je pense ce soir. Et puis les choses se sont enclenchées comme une espèce de seule et même aventure. À la fois courte et très longue, et à travers laquelle j'ai noué des magnifiques relations, collaborations, amitiés, amour. Je crois que ça s'appelle l'aventure du cinéma, et c'est merveilleux, et c'est une chance, et c'est un honneur vraiment d'être parmi vous. Merci infiniment à mes productrices, Judith et Eve. Merci à elles. On a passé 7 mois à monter ce film. Et d'ailleurs, on était en train de... Enfin, il y a un an, on tournait ce film à Dakar. On était en train de terminer... Enfin, il y a pile un an, je terminais ce film un peu sur les genoux avec mon équipe à Dakar. Donc c'est complètement dingue d'être là. Merci Omar. J'ai une pensée... c'est une déclaration d'amour aussi aux rues de Dakar, ce film à Dakar, au Sénégal, qui est là ce soir avec nous. Je suis à la fois ici avec vous et en même temps là-bas. Et je pense, j'envoie tout mon amour à mes acteurs, à mon équipe. J'aurais énormément de personnes à remercier précisément. Chacune des personnes qui m'ont je sais pas aidé à faire ce film, mais voilà, qui ont rendu ce film possible. J'en reviens pas, en fait. Mais merci.
Eva, vous avez remarqué que maintenant ils prennent plus de temps pour répondre.
De toute façon, il n'y a pas moyen de leur couper la parole. Sauf, il n'y a pas moyen, chacun fait ce qu'il veut.
L'audace de, beaucoup, il y a eu pas mal de personnes audacieuses, Beaucoup de personnes nous ont suivis à partir du scénario. Merci Alexandra et Grégory d'Advita, merci Juliette Schramek de MK2, merci Arte, merci le CNC, merci au soutien aussi du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Mais merci avant tout immensément à mes acteurs qui sont le cœur du film. Et j'ai hâte de partager ce film avec vous tous. Et
bravo Mathilde.
Voilà, pour ceux qui nous prennent en cours de route sur France Inter, on est en direct de Cannes. Il ne s'agit pas de la Palme d'Or, mais du...
d'exercice de concision.
Mais du Grand Prix attribué pour Atlantique à la franco-sénégalaise Mati Diop. Et maintenant, au moins, on sait, Eva, et on peut dire qu'on est très heureux ici dans ce studio.
Très, très beau film.
On sait ce que va être la Palme d'Or.
Mais il y en avait plusieurs possibles. J'aurais été folle de joie que ce soit Almodovar. Mais dans les possibles, c'est un magnifique.
Mais c'est vrai qu'on va vers une Palme d'Or. dont on va reparler dans quelques instants, mais qui fait, je crois, notre bonheur à tous.
Et ce serait la première Palme d'Or coréenne.
Ce qui serait la première Palme d'Or sud-coréenne.
Sud-coréenne, bien sûr, ça va de soi.
Pour Parasite, le film de Bong Joon-ho, mais je vais pas non plus prendre la parole au président Iñárritu qui va lui-même l'annoncer dans quelques instants. Oui, c'est vrai que c'est peut-être le film, Michel, tu m'en parlais tout à l'heure, qui arrive en tête dans les étoiles attribuées par les critiques du monde entier.
C'était un des grands favoris et c'est vrai que c'est un immense cinéaste et c'est, comme disait Eva, les Coréens ont donné des grands films à Cannes, mais c'est la première fois.
Sans avoir jamais été récompensé.
Et Bong Joon-ho, c'est son sixième film. Il a fait des grands films comme Mother, The Host, Memories of Murder. Et donc, celui-là est tout à fait dans le niveau de très haut dans lequel
donc, il se situe. C'est Catherine Deneuve qui va remettre le prix. Là, voilà.
Voilà, nous écoutons maintenant Catherine Deneuve qui fait son entrée ici au Théâtre Lumière du Festival de Cannes pour annoncer la Palme d'Or 2019.
Good evening, ladies and gentlemen. Cannes, le plus beau festival du monde. Et cette sélection ne l'a pas démenti. Señor Presidente, si vous voulez bien me rejoindre pour remettre la Palme d'Or. Si. Por favor.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bien.
Le président Iñárritu annonce la Palme d'Or.
Avant que nous annoncions le lauréat de la Palme d'Or de cette année, j'aimerais dire quelque chose d'intéressant. La quantité de réalisateurs iconiques, des grands maîtres, des vétérans et de nouveaux réalisateurs essaient pour la plupart de travailler et parlent à haute voix de ce qui se passe dans le monde, des sujets très graves qu'ils représentent parfois de manière créative et qui les amènent dans des lieux magiques. Et c'est souvent très inspirant, source d'inspiration pour nous tous. En parlant de ça, même à travers les temps que l'on vit actuellement, où la démocratie se perd, je peux vous assurer que ce jury-ci était totalement démocrate. J'étais un dictateur souple. Non, c'est pas vrai. Ça a été très démocratique et la décision que nous avons prise ensemble a été absolument unanime. Donc, la Palme d'Or revient à
Parasite met en scène une famille de chômeurs coréens confrontés à l'arrogance des nantis. Cette satire politico-sociale façon infosale et méchant Marc Dureau.
Voilà donc la Palme d'Or de ce 72e Festival de Cannes et le bonheur inouï de Bong Joon-ho pour ce prix qu'on a tous, je le disais, adoré, qui dure 2h12, pourtant qui est un long film. Et franchement, il n'y a pas un instant d'ennui. Et puis, c'est une fois de plus la consécration, on le disait à Eva depuis le début de cette émission, la consécration d'un festival très politique et d'un palmarès très à la fois social et politique.
Et avec une, si vous voulez, ce que dit Bong Joon-ho, on peut faire le point levé comme Ken Loach, on peut écrire Absolument. Le Capital, c'est Karl Marx, et lui, il le fait avec une inventivité, avec un mélange d'humour, de farce, de drôlerie, de
et même de l'horreur.
Et de l'horreur, il y a de tout, même du gore.
Voilà, on l'écoute pour recevoir sa Palme d'Or. Bong Joon-ho.
Le public ne s'est pas levé.
Je suis désolé, je n'avais pas préparé de discours en français. Je ne m'imaginais pas un seul instant que j'emporterais la Palme d'Or.
Alors, je suis vraiment très honorée, comme vous le savez tous. Je suis toujours très inspirée par le cinéma français. Je tiens à remercier en fait les deux grands réalisateurs français qui sont Clouzou et Claude Chabrol.
C'est vrai qu'il y a un peu de la cérémonie de Chabrol dans ce film.
Et beaucoup de diabolique aussi.
C'est diabolique, oui.
독특하고 새로운 영화를 만들고 싶었습니다.
그 작업을 가능하게 해준 거는 저와 함께한 수많은 아티스트들이 있었기에 가능했고요. 홍경표 촬영 감독님, 이하준, 최세연, 김서영 모든 아티스트들에게 감사를 드립니다. 네.
Alors l'aventure du film Parasite était vraiment quelque chose de très particulier pour moi et je tiens vraiment aussi à remercier ce soir tous les artistes, il y en a tellement, je peux peut-être nommer certains et je tiens à les remercier un par un tous ce soir. Merci.
그리고 그 많은 예술가들이 실력을 발휘할 수 있게 마음껏 지원해 주신 우리 바른손과 CJ 식구분들께도 너무나 감사를 드립니다. 저기 계신 여자분이 저희 프로듀서 곽신혜 대표십니다.
Et je tiens aussi à remercier la boîte de production qui est CJ en Corée. Vous trouvez ici en fait madame, c'est la productrice.
그러나 무엇보다도 기생충은 위대한 배우들이 없었다면 단 한 장면도 찍을 수 없는 영화였습니다. 함께 해준 배우들께 너무 감사드리고요.
Mais avant tout, le film Parasite, évidemment, n'a jamais pu exister si je n'avais pas pu avoir la chance de travailler avec ces acteurs aussi fabuleux les uns que les autres. Je tiens à les remercier également ici ce soir.
그리고 그리고 이 자리에 함께 해준 가장 위대한 배우이자 저의 동반자인 우리 송강호 님의 멘트를 꼭 저는 이 자리에서 듣고 싶습니다.
Et je tiens à écouter le discours de monsieur Song Kang-ho, donc mon acteur fétiche et mon binôme.
Merci beaucoup.
Extraordinaire acteur dans ce film. Qui joue le rôle du père de famille.
인내심과 그리고 슬기로움과 그리고 열정을 가르쳐 주신 존경하는 대한민국의 모든 배우분들께 이 영광을 바치겠습니다. 감사합니다.
Je tiens à remercier et aussi à rendre l'honneur en fait à tous les acteurs en Corée du Sud qui justement sont tellement passionnés et qui ont beaucoup de talent.
지금 저의 가족이 어디 2층에 있는데 지금 찾지를 못하겠네요. 어느 위치에 있는지.
Je n'arrive pas à trouver ma famille. Elle doit être au-dessus là, à l'étage. Ah.
가족에게도 감사하고요.
Évidemment, je remercie ma famille.
저는 그냥 12살의 나이에 영화 감독이 되기로 마음 먹었던 되게 소심하고 어리숙한 영화광이었습니다.
J'étais un petit garçon assez fanatique du cinéma dès l'âge de 12 ans et c'est à partir de cet âge-là que j'ai décidé de devenir réalisateur plus tard.
이 트로피를 이렇게 손에 만지게 될 날이 올 줄은 상상도 못했습니다. 예.
Je suis vraiment très étonnée en tout cas ce soir de pouvoir toucher de mes propres mains ce prix qui est quelque chose d'énorme pour moi.
Merci, merci beaucoup.
Voilà, c'est donc Bong Joon-ho qui reçoit la Palme d'Or ici au Festival de Cannes. Pour Parasite, un film qui sortira le 5 juin, Courez-y, qui sort le 5 juin dans les salles en France, avec ce peuple des démunis, des chômeurs, des oubliés, qui dans ce palmarès rejoint le peuple des oubliés, des répudiés, des intranquilles, des malheureux aussi, des films qu'on a déjà mentionnés, c'est-à-dire Atlantique, c'est-à-dire Les Misérables, c'est-à-dire Bacurao et d'autres encore. C'est vraiment une unité qu'on peut dire dans ce palmarès et saluer peut-être, Eva, quand même, ce président, González Iñárritu, oui. Qui a au moins été fidèle à une idée jusqu'au bout.
Il y a une cohérence. Et quelquefois, on a l'impression qu'on a donné un peu à celui-là, un peu à celui-là, etc. Là, il y avait un beau, énormément de choix. Enfin, pas mal de choix. Et donc, il dessine vraiment une cohérence. Il y a aussi une esthétique, parce qu'il y a beaucoup de formalistes dans le jury. Quelqu'un comme Yorgos Lanthimos ou Iñárritu, quand il fait Birdman, quand il prend le film Little Joe, dont la comédienne a été primée, ben c'est une sorte de vision assez esthétisante. Donc, il y a à la fois de l'esthétique, pareil dans le film de Bong Joon-ho, et il y a du fond. Et le fond, il dessine une réponse politique et sociale forte. Parce qu'on rit beaucoup au film de Bong Joon-ho, mais le fond, il est terrible. C'est en gros, la famille n'est pas atroce, la famille de riches chez qui ces pauvres vont s'introduire. Ils sont, je dirais, ils ont honte par essence tort. C'est en ça qu'il rejoint Chabrol à la cérémonie. C'était des gens tout à fait charmants, mais en tant que riches, ils ont tort.
Avec plus d'humour que dans la cérémonie, cela dit.
Avec, tout à fait. Mais c'est ça. Et puis, vous passez d'un moment, par moment, vous êtes du côté des pauvres, à un moment du côté des riches. Il est extrêmement subtil. Mais le fond, c'est qu'il y a un fossé des classes.
On va en reparler dans quelques instants. J'ai un seul reproche majeur à faire à ce palmarès. C'est qu'il est 20h25, vous écoutez France Inter, et qu'en règle générale, il nous laisse beaucoup plus de temps pour faire un masque et la plume consacré au film primé. Voilà, on va quand même en parler. Avant, je voudrais vous poser quand même à tous une question, parce qu'évidemment, c'est la première que tout le monde doit se poser derrière le poste, c'est-à-dire l'absence dans ce palmarès de tous les, ce qu'on pourrait appeler les grands perdants de cette édition 2019. Terrence Malick, Tarantino, Marco Bellocchio, Xavier Dolan, Ken Loach, Keshish, on en a parlé, Desplechin, c'était quand même une liste très très éloquente et aucun d'eux n'apparaît dans le palmarès final. Quel est votre sentiment et votre interprétation de ce que je viens de dire, Nicolas ?
Moi, je pense que le petit discours d'Inaritu avant de remettre la palme d'or est adressé d'une certaine manière à Terrence Malick. C'était vraiment parce qu'il a dit en gros qu'il y avait beaucoup de grands noms cette année qui avaient été déjà primés et qu'il y avait une poésie très importante dans certains films qui parlaient de choses très importantes aujourd'hui dans ce monde menacé par la démocratie déclinante. Et pour moi, c'était vraiment, il faisait référence directement à Terrence Malick. On sent vraiment, c'était vraiment le sous-texte. Donc je pense qu'il a dû être discuté, le Terrence Malick. Après, moi, j'ai pas beaucoup de frustration en dehors du Malick. Je suis pas très frustré par l'absence de Dolan, de Ken Loach, qui ont fait des films assez, je trouve, mineurs. Le Bellocchio est formidable, mais moi, ce palmarès à un prix près me satisfait largement.
Michel.
Oui, enfin, moi, d'abord, je sauve la Palme d'Or. C'est vraiment extraordinaire d'avoir donné à Bong Joon-ho, qui est un cinéaste absolument original. C'était pas du tout évident. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois en deux ans que l'Asie a la Palme d'Or. Faut pas oublier que
l'an dernier,
c'était
Corée,
un Japonais, et ensuite, maintenant, c'est un Coréen. Donc, il y a le retour de l'Asie. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'Amérique est totalement absente. C'est-à-dire, on avait dit, c'est le grand retour des Américains.
Alors qu'elle n'a jamais été aussi présente au Festival de Cannes.
Voilà, il y avait 4 films américains. On avait dit, l'Amérique boude Cannes. Pas cette année. Ils ont 4 films. Aucun n'a été primé. Mon grand regret, enfin, j'ai 2 grands regrets, c'est Bellocchio et Malick, et évidemment, Almodovar. Donc, ça fait 3 films, pour moi, considérables, qui sont ignorés.
Antonio Banderas est pris d'interprétation.
Mais ça justifie pas.
Michel a raison.
C'est tout même le metteur en scène. C'est un des plus grands metteurs en scène dans l'activité aujourd'hui, qui n'a jamais eu la palme. Donc, ça me frustre beaucoup, surtout au profit de certains films que je trouve, par exemple, le film de Diop, qui était, à mon avis, très surfait pour arriver si haut dans le palmarès de Cannes. Mais je reconnais qu'il y a une vraie cohérence, comme le disait Eva, il y a une vraie cohérence dans leur choix. Mais je m'interroge toujours pourquoi on voit des grands cinéastes totalement absents avec des grands films.
Xavier.
Peut-être parce que justement, c'était pas des grands films cette année, Michel, à l'exception de Bellocchio. Je suis désolé, mais on peut dire que Xavier Dolan, Tarantino et Terrence Malick.
Almodovar, tu n'aimes pas non plus?
Je vais parler d'Almodovar dans 30 secondes, mais Almodovar, il est quand même représenté d'une certaine manière, on l'a dit, donc il n'est pas écarté du palmarès. En revanche, je suis désolé, mais la présence, s'ils avaient été primés ce soir de Dolan, de Tarantino,
mais pas Dolan,
ou de Malick,
aurait
été
de
vraiment
Dolan.
Des primes mais le, à une espèce d'intuition.
Mais faut pas tout mélanger, le film de Dolan est absolument raté.
Je parlais de la liste que Jérôme a établie des cinéastes.
Mais Dolan, c'est rien du tout. Rimbaud s'est arrêté à 21 ans. Il a cessé d'écrire de la poésie à 21 ans.
Le rapport
Dolan devrait s'arrêter. C'est un garçon. C'est un garçon très doué.
Disons
et
que...
puis, à 27 ans, il devrait dire, c'est terminé. Je me retire dans le
mais
désert.
Il n'est pas injuste que Malick et Tarantino ne soient pas au palmarès. Les films n'étaient pas bons. Maintenant, on va dire quand même dire les choses. Terrence Malick, c'est un film très faible.
Il faut arrêter. Mais il n'y a pas de ticket, le Malick est très beau, il n'a aucun ticket.
Le Malick, on en reparlera, il n'est pas très beau, il pose énormément de problèmes à plein de points de vue, donc arrêtons. Il a fait un film mineur. Sauf les nazis qui parlent allemand, ça déjà, c'est un problème d'éthique extrêmement. Ah ben non, mes enfants, non, vous pouvez pas balayer d'un haut comme ça. Vous voyez que c'est Malick, c'est raté, merde.
Pour toi, pas pour tout le monde.
Oui, je ne parle que pour moi.
Je voudrais rappeler la phrase d'Agnès Varda, pour bien raconter, il ne faut pas montrer, il faut donner envie de voir. Et justement, le Malick, c'est l'inverse de ça. Absolument. Donc je suis assez d'accord. Et j'ai beaucoup aimé Malick, mais là je suis d'accord avec Xavier. Je trouve qu'il ne laisse pas la place au spectateur, il ne laisse pas la place.
Donc il n'avait pas sa place.
Donc bien que Malick soit un très grand cinéaste, pour cette fois, moi je trouve qu'en effet...
C'est un film absolument sublime. Le mot sublime au sens strict du mot sublime.
Oui, mais c'est un film biblique.
C'est-à-dire dans la grande peinture, de Gaspard Friedrich, ou des grands peintres américains. C'est sublime dans le nom qu'il dit. Oui, il dit non. On est dans une époque où tout le monde dit oui. Le fascisme est en train d'envahir le monde entier. Les gens n'osent plus dire non.
Mais qui le dit de façon contemporaine, Michel.
Pas ensemble, s'il vous plaît.
C'est enfoncer une porte ouverte de dire que le nazisme, c'est pas bien quand même.
C'est pas dit ça.
S'il vous plaît.
C'est le courage d'un individu. C'est un film s'adresse à tout le monde aujourd'hui.
Oui, mais ça ne va pas
de nos jours. Refuse de dire non.
Mais il fait le film qu'il veut, enfin, Xavier.
Donne-lui le film qu'il veut. Non, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas toi aussi. Non, Nicolas, tais-toi maintenant.
Je voudrais dire une chose.
Il fait le film qu'il veut.
Je voudrais juste que Sophie termine sa phrase.
Il fait le film qu'il veut et j'ai le droit de ne pas l'aimer.
Ah oui.
Alors, le côté le pape a des choses à dire, le côté papal, le côté Chapelle Sixtine, le côté solennel, le côté emphatique, là, me déplaît dans le film de Malick, qui encore une fois, moi je préfère une petite église délabrée du 16e à ça. J'ai le droit aussi. Bon, c'est tout ce que je
veux. Alors, Eva, on parle d'une vie cachée de.
Oui, mais moi je voudrais lui dire une chose extrêmement terre à terre. Dans ceux qui ont mordu la poussière, financièrement, celui qui a pris le plus cher, c'est Tarantino. Parce qu'il monte ce film en avant-première.
Avec une distribution éclatante.
Ça a coûté une fortune. Je crois qu'il y avait 60 personnes qui sont venues. Ouais. Des étages entiers. Ça a coûté une fortune. Il prend un risque parce que le film ne sort qu'en juillet, que je crois qu'en juillet.
En août.
Donc, c'est-à-dire qu'il est venu à Cannes.
Pour recevoir un prix.
Mais bien sûr. Mais... C'est-à-dire courir le risque. Les Américains, Sony, courant le risque de la compétition, repartir sans rien. Quand on sort le film après, c'est pas évident.
Mais on en a beaucoup parlé quand même.
Je ne dis pas le contraire. Mais la presse américaine n'a pas été bonne. Et il repart quand même.
Non, la presse étrangère et française, il fait partie des 5 films préférés de la presse étrangère et de la presse française.
Mais lui-même,
le Tarantino a été, moi, j'aime pas beaucoup le film. J'ai été très déçu. Pour répondre à Xavier, je ne fais pas la politique des auteurs. J'ai défendu toujours Tarantino. J'ai toujours défendu Tarantino. Ce film m'a profondément déçu. Mais néanmoins, je constate que dans Screen et dans le film français, il fait partie des 5 films préférés de la presse française et étrangère. Mais en même temps, je ne suis pas du tout choqué qu'il n'ait pas...
Ah, moi, je ne suis pas du tout choqué. Je dis simplement que le risque était important.
La palme du meilleur prestation canine. Et il était très fier de ça.
Moi, je ne suis absolument pas choqué qu'il n'y soit pas. Je dis juste...
On parlait des absents, il nous reste une petite demi-heure, 30 minutes pour parler des primés. On commence évidemment par la Palme d'Or, par Parasite de Bong Joon-ho. On va en reparler dans 15 jours au Masque et la Plume, puisque le film sort, je le rappelle, le 5 juin, et que c'est un film qu'il faut aller voir. Il est drôle, il est inquiétant, il est angoissant, et ce qu'il dit de la société, en l'occurrence... en Corée du Sud, mais aussi dans le monde entier, est très, à mon avis, très important et très éloquent. Eva.
Oui, il y a un côté qui est très presque architectural. Il y a deux maisons. La maison des pauvres.
Enfin, la première n'est pas une maison.
Oui, c'est un sous-sol inondable. Qui, à un moment donné, va être inondé parce qu'il pleut. Voilà. Il y a une scène de pluie. Chez eux, c'est la fin du monde. Ils habitent un sous-sol, donc ça n'existe plus. Dans la maison des riches, qui est belle et qui est en hauteur, c'est une pluie. C'est une pluie qui est tombée. Ce n'est pas plus qu'une pluie.
Alors, il ne faut pas en dire davantage. Attention, il ne faut surtout pas raconter.
Non, je ne vais pas raconter. Il y a juste l'idée qu'à un moment donné, les pauvres. On peut raconter le premier entrée. On vient donner des cours de maths ou je ne sais pas quoi à la jeune fille de la famille. Bon, qui sont les parasites? Les pauvres qui sont venus chez les riches et qui essaient de grappiller quelque chose, ou les riches, c'est ce qu'expliquait Bong Joon-ho, qui sont pas capables de faire leur vaisselle eux-mêmes, de cirer leurs chaussures eux-mêmes et d'élever leurs enfants eux-mêmes. Donc il y a cette idée qui est très subtile, qui est que tout le monde est le parasite de tout le monde, mais que l'inégalité, elle est là.
Et puis c'est aussi infiltration mode d'emploi, comment entrer dans un autre lieu.
Surtout
lieu,
ce qui est génial aussi,
avec entre parenthèses des allusions mais drôlissimes que peut en relever sur la Corée du Nord, qui se glisse dans ce film de manière insidieuse et à mon avis très polémique. Sophie.
Oui, il y a beaucoup de choses dans le film parce que effectivement c'est aussi le triomphe du cinéma, hein, parce que comme Eva l'a dit, il traverse les genres, il a toujours fait ça avec The Host, avec Mother, avec Orja qui était génial, et là en effet il traverse vraiment tous les genres, donc c'est le patrimoine du cinéma. Il y a une chose qui est géniale, c'est que ces pauvres, ils veulent pas prendre la place des riches. C'est pas ça qu'ils font.
Et parce non, que ça pourrait être s'infiltrer.
Ça. Ils s'infiltrent. Alors c'est Gosford Park absolument. Aussi d'une certaine manière. Et puis c'est un peu Kore-eda aussi parce que c'est un mélange de d'une affaire de famille et d'Altman avec Gosford Park. Et puis c'est aussi les gardiens du sous-sol. Enfin il y a une espèce de il y a une scène qui est géniale. Donc sans déflorer quoi que ce soit, où ils se retrouvent. Au fond, c'est un film sur la cohabitation entre les riches bien et les sûr. Pauvres. Comment on cohabite ensemble? Comment on fait pour vivre dans le même salon, les uns en haut, les autres en bas? Et il y a une scène qui est métaphorique de ça, qui est la scène, la fameuse scène du salon où les riches, finalement, ne savent pas qu'ils vivent avec les pauvres, alors que les pauvres sont là. Et ça en dit long, de même que l'odeur qu'auraient les pauvres et que les riches sont toujours en
odeur,
train de
odeur
citer,
de vieux radis,
odeur de radis
et de torchons sales. Sale.
Ça, c'est génial. Il y a une façon à la fois hilarante et fine.
Sans oublier, puisque c'était un festival rempli de zombies depuis Jarmusch d'ailleurs jusqu'à Atlantique, on peut presque dire qu'il y a des morts vivants
bien sûr
dans les sous-sols de cette maison
qui
Xavier
sortent. Bah, j'en reparlerai dans 15 jours, donc je vais économiser le temps de parole et le laisser à mes petits camarades. Mais c'est un grand film remarquablement écrit, parce que la manière dont les pauvres vont peu à peu gagner le territoire des riches est remarquablement écrit en termes de scénario, de trouvailles, comment remplacer ceux dont ils vont entre guillemets, voilà, je m'arrête là. Mais tout est relayé par une mise en scène au cordon d'une précision, d'une inventivité. C'est Hitchcock puissance 10 dans cette manière d'onguler cette maison, d'aller fouiller comme ça les choses. Il y a des idées de mise en scène à chaque plan, mais qui ne sont jamais didactiques, qui sont toujours intuitives, qui sont toujours intelligentes. C'est remarquablement filmé. Et puis, cette Palme d'Or nous venge de l'absence de Burning l'année dernière de Lee Chang-dong au palmarès. Voilà. Donc, je suis ravi, doublement ravi.
Michel. Oui, c'est, on voit à quel point les prix dépendent vraiment du hasard, puisque le Lee Chang-dong Burning est considéré comme un des deux ou trois plus grands films. L'année dernière, il a rien eu, et ce Coréen, tout aussi talentueux, remporte la Palme d'Or. Moi, ce qui me plaît, évidemment, ce qu'on trouve souvent dans la littérature asiatique, c'est le mélange de trivial et de fantastique. C'est-à-dire le mélange de réalisme, et en même temps d'imaginaire. C'est vrai que Bong Joon-ho, on se rappelle The Host, avec une sorte de Godzilla, qui créait des tempêtes dans la ville, qui détruisait tout, etc. C'est un cinéaste visionnaire, et en même temps, c'est un peu qu'est-ce qui est devenu à la famille depuis C'est-à-dire qu'on pense au film d'Ozu et on pense à la famille extrême orientale aujourd'hui, avec complètement disjonctée, avec même à la dérive.
Une scène gore digne des grands films d'horreur.
Et oui, mais c'est pour ça que ça me ravit que Bong Joon-ho et la Palme d'Or enfin. Moi, ça fait 15 ans que pour moi, c'est vraiment un des grands, très très grands cinéastes contemporains. Et en plus, c'est aussi l'acceptation du cinéma de genre, parce qu'il mélange les genres. La Corée, c'est le génie du cinéma coréen, c'est de mélanger les tons, les genres, dans la même scène souvent. Et lui, c'est vraiment un virtuose pour ça. Et là, c'est aussi l'acceptation d'un cinéma de divertissement aussi, parce que il y a du social, mais c'est un vrai cinéma, un vrai spectacle.
Absolument.
Il y a du Hitchcock.
Il y a du suspense.
Une mise en scène, mais il y a rien, tout est maîtrisé, mais c'est de la maîtrise libre, de la maîtrise inventive, c'est subtil, arrive à être aussi maîtrisé et subtil. Moi, je suis ravi et j'espère j'espère que les gens iront voir le film et surtout découvriront ses précédents films.
Que la raison, puisqu'il y a une autre maîtrise dans le palmarès, qui est l'horrible film de Jessica Hausner, qui étrique son film et qui l'appauvrit constamment, alors que la maîtrice de Bong Joon-ho enrichit constamment.
C'est un film qui a un potentiel grand public. Il y a du Hitchcock, il y a du Shyamalan, il y a du Us de Jordan Peele, il y a du La Servante de Kim Ki-young, qui est un classique de là-bas, du Chabrol.
Et en même temps, il ressemble qu'à lui-même.
Voilà, il est homogène.
Et il peut attirer un public jeune.
Voilà.
C'est un film que les jeunes peuvent adorer.
Et en plus, il sort le 5 juin. Bref, on est tous très heureux ici à Cannes de cette Palme d'Or qui récompense Parasite de Bong Joon-ho. Allez, plus rapidement donc, ce double prix du jury décerné aux Misérables, on le disait, de La Jolie, ainsi qu'à Bakurao, co-signé Kleber Mendoza-Filho et Juliano Dornes, Les Misérables, allons-y, quelques mots.
Moi, je trouve l'association des deux films ex aequo sur ce prix absolument d'une pertinence absolue. C'est-à-dire que c'est deux films sur la colère et des endroits du monde, donc les banlieues françaises et le Brésil, où ça va exploser.
Alors, France, il faut expliquer en deux mots que c'est une bavure policière commise
à Montfermeil
pendant une tournée de trois policiers de la BAC, que sont Damien Bonnard, Alexis Manenti, qui est très bon d'ailleurs, et Djibril Zonga juste après la victoire de la Coupe du Mondial de foot.
Et Bacolao qui raconte, parce qu'on parle des deux, ou on va
absolument,
on parle de
deux milliards d'euros. Absolument.
Bacolao qui nous plonge dans le Sertão brésilien, dans une petite communauté campagnarde complètement ahurissante qu'on va pas décrire, mais qui vit un peu de reclus et qui s'auto-gère et qui est la cible de tueurs fous, on va pas en dire plus non plus, où les morts s'accumulent. Et c'est un film sur le fascisme résurgent, c'est un film sur et en même temps qui mélange les genres, encore une fois. Mendoza est aussi pour moi un des plus grands cinéastes contemporains, qui avait fait Aquarius il y a 3 ans, qui était malheureusement rentré bredouille, et là il reprend les thèmes d'Aquarius, mais le film bascule de point de vue dans un cinéma de genre et dans un cinéma aussi ethnographique d'une certaine manière. C'est absolument fascinant, et les deux charrient une colère et un désespoir de la société actuelle qui est absolument important. Moi, je pense que Christophe Castaner et tout le gouvernement devraient aller voir ces films, ça leur ferait du bien.
Je pense que Bolsonaro ne sera pas très content.
Et Bolsonaro, exactement. Non, mais les deux côtés.
De Bacurao, qui fait d'ailleurs 2h12 exactement comme la Palme d'Or de Bong Joon-ho. Allez, sur ces deux films, rapidement, Michel.
Oui, alors moi je vois pas de rapprochement entre les deux, parce que autant Les Misérables est totalement réussi dans son projet, qui n'est pas pour un premier film si original que cela. C'est très bon. J'aime beaucoup le film. Je ne veux surtout pas que ça soit pris comme des réserves. Mais néanmoins, j'attends toujours d'un premier film la découverte d'un univers, la découverte d'un style absolument singulier. Là, j'ai vu un très bon film sur la banlieue, pas manichéen du tout, avec des flics très différents les uns des autres, certains antipathiques, certains pas si antipathiques que ça, des jeunes aussi. C'est très bien, caméra à l'épaule, très bien filmé. Mais je dirais que c'est un film très réussi dans ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire n'est pas un des grands premiers films qu'on a vu dans l'histoire du cinéma. Il y a beaucoup de premiers films extraordinaires. C'est pas le cas. Mais c'est un très bon film. Par contre, le film brésilien, alors je suis ingrat puisque j'ai été interviewé par lui dans ce film sur la critique.
Par Kleber Mendoza Filho.
Mendoza Filho. Autant j'avais aimé Les Bruits de Récif et j'avais aimé Aquarius, je pense que là, il entreprend quelque chose de gigantesque, comme le grand cinéma novo, le Glauber Rocha d'il y a 50 ans, qui étaient des films prodigieux, mais il n'a pas les moyens de son ambition. C'est-à-dire que c'est à la fois du gore, c'est un western, c'est un film politique, c'est une chronique, c'est tout ce qu'on veut.
C'est une dystopie.
Et pour moi, c'est tellement ambitieux que ça, il ne réussit pas du tout à rendre, alors ce que fait évidemment Bong Joon-ho de façon géniale, et lui, il n'y arrive pas, et pour moi, c'est un film beaucoup moins intéressant que le film français.
Xavier?
Moi, je suis d'accord avec Nicolas, je trouve qu'il y a un vrai rapport entre les deux films. C'est deux westerns rageurs, poussiéreux, qui disent effectivement la désespérance à la fois des banlieues et puis d'une partie oubliée de la population du Brésil. En revanche, moi, je trouve Les Misérables très manichéen, très posant dans sa problématique, posant les choses dans le scénario de manière très lourde. Vraiment. Et ce qu'il réserve aux gens du voyage comme manière de les filmer, de les décrire, est extrêmement douteux, on y reviendra. Et je trouve que c'est Bacurao.
C'est pas les gens du voyage, c'est des circassiens. C'est
quand même par eux que deux fois le malheur
de la vie des lions.
Mais enfin quand même, c'est un petit peu.
Ça fait référence à des vidéos YouTube.
Et en revanche, moi, le western, le Bacurao, m'a enthousiasmé parce que c'est un film qui nous surprend, qui n'est jamais là où on l'attend et qui a un vrai message politique, mais effectivement pas frontal, pas appuyé, pas alarmiste.
Ce que je trouve de formidable dans Les Misérables, c'est que le Ledgely, il part de l'intérieur vers l'extérieur. Et à tout moment, il a cette démarche-là. C'est-à-dire, il n'en rajoute pas dans le film de banlieue, dans les choix des musiques, il refuse les codes. C'est quelqu'un qui veut se faire entendre. Voilà, il veut dire, et je trouve très important, parce qu'il n'y a pas assez dans le cinéma français cette prise sur le réel. Quand c'est les Américains le font, on trouve ça formidable. Il fait quelque chose de formidable. Michel, je ne sais pas ce qui deviendra, mais ce type a de l'envergure.
Avec un début époustouflant, parce que cette Marseillaise chantée par toutes les cités.
Mais c'est magnifique. Le premier plan, c'est un enfant.
Annonce le meilleur et ça va être le
pire. Qui est enveloppé dans un immense drapeau français. Tout est dit, il dit, absolument. Ce message, il dit, ça donne la chair de poule, ce sont des Français, ce sont vos enfants et vous ne les voyez pas. Je trouve que c'est un des plus beaux débuts de cinéma que je connaisse. Et là, c'est pas du tout appuyé. C'est une manière très belle de faire de la
politique. Sophie.
C'est vrai qu'il vise l'efficacité. C'est peut-être un peu ce que je lui reproche. Je suis d'accord sur les critiques que vous avez faites. C'est un film qui parle des misérables. C'est un film qui dit des choses profondes, intéressantes sur la société française, sur la banlieue, etc. Je trouve qu'il a pas un regard de cinéaste. Bon, c'est son premier film. Il a pas un regard de cinéaste. Et à l'inverse de l'avoir associé à Bacurao, justement, justement montre ce qu'est un cinéaste à mes yeux. Pour moi, justement, on voit que là, Kleber Mendoza Filho est un grand cinéaste qui est capable, sur une fable sociale, d'inventer une fiction complètement dingue. Et moi, j'ai été hypnotisée par... Enfin, hypnotisée, c'est un grand mot, mais il est sans arrêt, inattendu. Et c'est ce que j'aime dans Bakuro.
Alors, quelques mots de ce prix de la mise en scène attribué aux frères Dardenne pour le jeune Ahmed, dont on va encore parler au masque dans quelques temps, puisqu'il sort également, je crois, le 5 juin, en même temps que le...
Ou ce, non, il est déjà sorti. Il est déjà sorti.
Il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Ben voilà, on en parle donc, très bientôt dans le masque. Prix de la mise en scène, c'est un peu bizarre, si vous permettez. Je trouve que... non, mais... Pour ceux qui ont eu, encore une fois, deux palmes d'or, qui ont eu un nombre incalculable de prix, tout d'un coup découvrir que ce sont des bons metteurs en scène avec le jeune Ahmed, ça me paraît un peu étrange, non ?
Oui, mais je pense qu'il y a des cinéastes, chaque fois qu'ils arrivent, un nouveau jury découvre les Dardenne. Je ne veux pas dire qu'ils sont incultes, mais je veux dire qu'ils n'ont pas forcément accès à tous les films. Et Rosetta... Ouais, il a la Palme d'Or. Et il a la Palme d'Or quelques années après, c'était pour l'enfant, je crois.
L'enfant.
Mais je pense que chaque fois qu'ils arrivent, les gens disent, mais cette manière très simple de pouvoir faire un cinéma qui dit des choses, je crois que c'est cet effet-là.
Tout à fait.
Chaque fois que les Dardenne viendront, ils feront cet effet.
Mais aussi, les Dardenne viennent aussi avec une façon de faire qui est toujours quand même un peu différente, même si on a l'impression qu'il faut toujours la même chose. Là, eux-mêmes disent, cette fois, on ne savait pas comment ce personnage, on allait le sauver. Et on a buté sans arrêt, parce que ça ne pouvait pas être une tierce personne qui, comme dans les films précédents, le sauver. Et pour arriver à cette rédemption de cet enfant qui est en effet caparaçonné, endoctriné et absolument impénétrable, ils se sont accrochés à leur film pour y arriver. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, la mise en scène y arrive. C'est la mise en scène qui fracasse la coquille.
Michel.
Oui, moi je suis d'accord avec toi, Jérôme. C'est vrai que c'est pas une découverte de le prix de la mise en scène aux Dardenne, mais d'un autre côté, les Dardenne avaient un peu marqué le pas avec leur dernier film. On sentait qu'ils étaient un peu dans une impasse. Et ce film revient à ce qu'il y a de plus dur chez eux. C'est un radicalisme. Ils reviennent à Rosetta. D'ailleurs, c'est un film qui est un peu le jumeau de Rosetta, parce que Rosetta, pour reprendre Terrence Malick, c'est une jeune fille qui disait non. Et là, au contraire, on a quelqu'un qui s'engage dans le crime, qui s'engage dans l'horreur. Alors, mais on peut reprocher au film, mais c'est que C'est un film behavioriste. On n'entre jamais dans la tête de ce garçon. On n'entre jamais dans ses
motivations. Et pour cause, il est enfermé, on ne peut pas rentrer dans sa tête.
Mais le film est totalement maîtrisé, par rapport à son projet, il est totalement parfait. Parfait.
Behavioriste sur un corps rigide et une psychologie absurde. C'est les limites du film. Je trouve que il y a un système Dardenne qui tourne un peu, je trouve, à vide et ils adaptent le sujet à leur système d'une certaine manière. Alors, c'est pas aussi grossier que ça, mais il y a quand même un peu cette idée-là. Et je suis d'accord avec Eva. Moi, je pense que le Dardenne, à chaque fois, font effet sur les jurys parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le cinéma des Dardenne et qu'effectivement c'est un cinéma tellement différent et maîtrisé dans leur genre.
Et tout est dans la mise en scène.
Avec un point commun avec le film de Téchiné, La Due à la nuit, sur le même thème, c'est que ni les Dardenne ni Téchiné ne jugent. Ils montrent, mais ils ne jugent pas. Et n'en tire pas de
le
pas
et étonnamment je trouvais le Dardenne plus intéressant et plus fouillé et plus subtil sur le sujet.
Le Dardenne
le Téchiné.
Mais moi je pense comme toi.
On va en parler, je suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas, ça ne tourne pas à vide, il y a quand même quelque chose dans le scénario au pluriel, quelque chose qui moi vraiment m'intéresse, mais le débat aura lieu dans 15 jours. Mais en même temps, c'est les seuls à continuer de regarder le monde qui est en train de se faire et de se défaire, et je pense que comme Ken Loach, ce sont des regard indispensable, salutaire, même parfois quand les films sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on a adoré. Mais moi, j'ai besoin aussi de ces grands cinéastes témoins, j'allais dire relais, de ce qui se passe aujourd'hui et qui le font avec quand même beaucoup d'empathie, beaucoup d'acuité et sans aucun jugement.
Allez, il ne reste pas beaucoup de temps, donc ça, c'est le prix de la mise en scène. On va pas reparler d'Atlantique parce que
non, mais le portrait de la jeune fille en feu, peut-être.
Voilà, peut-être mots quand même de ce prix de du scénario qui semble avoir déçu un peu Céline Sciamma au moment où elle a reçu le prix des scénarios, donc pour Portrait de la jeune fille en feu avec Adèle Haenel et Noémie Merlan pour ce portrait au 18e effectivement d'une peintre qui veut faire le portrait d'une jeune femme qui refuse et le mari et le tableau.
Est-ce que ce film aurait mérité davantage? C'est ça la question que je vous pose.
Moi, je voyais bien prix du jury ou grand prix du jury, parce que je trouve qu'il méritait quand même un beau prix. C'est un film d'une grande douceur et en même temps qui a une vraie ampleur. C'est un film qui rappelle quand même que l'histoire des femmes a été occultée et sans être contre les hommes. Elle rappelle juste à travers cette... Évidemment, c'est une histoire de passion entre les femmes, mais c'est aussi beaucoup l'histoire de la création au féminin et comment les femmes ont été oubliées, occultées par l'histoire, puisque des peintres au XVIIe siècle, il y en avait. Je pense qu'à cette table, on n'est pas beaucoup à pouvoir... Enfin, personne n'est capable de citer plus de trois peintres, et même moi, je peux en citer qu'une. C'est quand même une vraie faillite culturelle, ça. Enfin, c'est... Et je trouve qu'en douceur, Céline Sciamma rappelle qu'il faudrait peut-être ne pas oublier que des femmes ont été de grandes créatrices aussi. Le film parle beaucoup de ça.
Mais ce que je trouve très beau, c'est la manière... Elle montre en fait la naissance d'un sentiment amoureux. Elle fait l'économie des scènes d'amour. Elle n'en a pas besoin. Et c'est ça, je trouve ça d'une grande, grande intelligence. Et elle montre une histoire d'amour entre femmes intelligentes. Et puis, c'est aussi un film qui consolera tous les chagrins d'amour. Il dit, même si une histoire n'est que temporaire, vous êtes grandi parce que vous l'avez vécu. Et ça deviendra dans votre création. Et ça reste dans votre vie. Donc, je trouve qu'il y a toutes ces dimensions-là avec une grande délicatesse. Elle n'a pas besoin d'insister.
Oui, moi je trouve que c'est très bien le scénario parce que je suis moins enthousiaste que vous sur le film. Je trouve le film encore un peu scolaire dans sa manière de raconter les choses, de décrire les choses. Je ressens pas la flamme, je ressens pas le désir. Je pense qu'il y a une vraie question sur le regard féminin et masculin sur les films notamment qui ont été présentés là, qui est vraiment intéressant, qu'il faudra creuser. Mais voilà, je trouve le scénario, ça lui va bien. C'est
et Michel.
Oui, moi je suis d'accord. J'ai beaucoup d'admiration pour Céline Sciamma. Je trouve les trois premiers films étaient formidables, d'énergie, de visuel.
De filles était ultra énergique.
Et donc ce film-ci, je trouve effectivement c'est un scénario très intéressant. Je suis à fond pour le propos, la naissance de l'amour entre ces deux filles. Mais je trouve que ça reste raide. Quand on pense que le chef-d'œuvre de Jane Campion avait été massacré par la critique, Portrait de femme, c'est la même chose, film en costume, c'était un chef-d'œuvre et il était massacré par la presse. Et qu'on voit ce film porté au nu, ça me rend malade. Parce que vraiment, c'est un film guindé, qui a tous les défauts du film en costume, parce que ça ne respire pas à l'intérieur du cadre. C'est-à-dire, elles sont là, elles ont un texte à dire, elles disent leur texte, mais le sujet est très bon, mais la mise en scène est en deçà du sujet.
Portrait de la jeune fille en feu, c'est le film de Céline Sciamma qui a reçu le prix du scénario. On s'est déjà beaucoup exprimé sur le prix d'interprétation masculine décerné à Antonio Banderas pour le film de Pedro Almodóvar, Douleur et gloire, évidemment, que Le Masque a encensé la semaine dernière. Le prix d'interprétation féminine est allé à Emily Bechmann dans Little Joe, de ce film plus discutable, de selon moi, de Jessica Hausner. Vous auriez... ça sera une des questions de la fin. Quelle est la comédienne à laquelle vous auriez aimé voir attribuer ce prix très important?
Virginie Fira, pour moi. Je trouve que c'est une grande injustice que Virginie Fira, dans le film de Justine Trier, Sibylle, ne soit pas du tout au palmarès. Vraiment, j'ai trouvé le film vertigineux et je trouve que son jeu est extraordinaire.
En plus, pour jouer une psy qui redevient romancière, c'est-à-dire un rôle
parce qu'il y a un pitch qui est impossible. C'est un pitch incroyable, plein
de
romanesque.
Même devenir à la fin du film, pourtant, metteuse en scène.
Absolument, et pourtant, elle arrive à lui donner une vérité incroyable.
Nicolas.
Je suis d'accord sur Virginie Fira. Après, je pense que le sujet a moins touché peut-être l'international, et c'est un sujet très parisien, j'allais dire, mais effectivement. Et j'ajouterais Ophélie Beau, quand on a parlé du Mac to My Love. J'aime pas le film d'Abdelatif Kechiche, qui pour moi méritait aussi. Et ça aurait été un pied de nez à Abdelatif Kechiche, en fait, d'une certaine manière.
Et Michel Xavier.
Fira dans un film.
Fira,
pour moi, qui n'est pas vertigineux, mais un film une actrice que j'ai trouvé très très bonne.
Et Xavier.
Bon, pareil, Virginie Fira, ce qu'elle fait, il reste quand même tout à fait remarquable, stupéfiant, étonnant. C'est une grande, grande comédienne qu'on est en train de voir gagner en ampleur et en charisme et en intensité. Et voilà, je trouve que c'était le moment de la sacrer parce qu'elle le mérite.
Alors, je voulais encore signaler, évidemment, vous rappeler, si vous n'avez pas pris l'émission en cours de route, que là, il y a une mention spéciale, inédite, de ce jury pour le film d'Elia Souleymane, Ce doit être le paradis. Et également signaler que la caméra d'or est allée à Nuestra Madres de César Diaz. Quelques minutes pour vous demander aux uns et aux autres, finalement, puisque ce festival se termine ce soir, quel a été votre grand choc, coup de cœur, peut-être coup de gueule aussi, toute section confondue. Et on va commencer avec Sophie.
Eh bien, moi, au risque de me répéter, le vrai choc pour moi, ça a été Mektoub, My Love, parce que je savais à la fois à quoi je m'attendais, et en même temps, sur quelque chose de similaire, je trouve qu'il a fait autre chose, je trouve qu'il pousse les limites, il a franchi son cinéma, je trouve ça assez extraordinaire. J'aime la façon dont il montre les corps des hommes, les corps des femmes, les corps d'acteurs, on en parlait au début de l'émission, c'est des corps qui sont faits pour être montrés, et ça me choque pas sa façon de regarder le corps des femmes et le corps des hommes aussi. On est cinéaste, on est photographe, on est un peu voyeur, ça fait partie des choses. Voilà, je trouve ce film formidable.
Eva.
Je peux pas en dire un seul.
Ah bon?
Mektoub, My Love m'a fait quelque chose parce que je me disais effectivement, je vois quelqu'un qui est assez incroyable et j'aime suivre des gens. Je suis d'accord pour être embarquée par Kechiche. Lajli m'a mis une claque parce que je me dis, il faut que le cinéma vienne nous dire regardez mieux la vie. Et ça, il l'a fait. Almodovar me déchire le cœur. Même quand j'y repense après coup, j'ai les larmes aux yeux. Et je dirais que c'est plus à mon cerveau qu'à mon cœur que s'adresse la Palme d'Or. Mon cerveau, mes références de cinéma, tout m'enchante. Mais les autres, ils m'ont plus touché au cœur. Je ne regrette pas cette Palme d'Or. Mais les autres, ils ont touché quelque chose dans la sensibilité, dans le cœur, dans le grain de peau, dans voilà.
Xavier, le grand moment, le grand choc, la grande émotion de ce festival 2019.
Moi, je vais aller au coup de gueule. Je trouve que l'absence du film de Marco Bellocchio, Le Traître, est vraiment indécente.
Avec un comédien exceptionnel. Hein.
Extraordinaire. Pierre Francisco.
Qui joue le rôle de ce traître de la
Favino qu'on avait vu. J'ai Christine Carrière avec Mathilde Seigné, d'ailleurs, qui est un acteur extraordinaire, qui parle tellement bien de son métier. Je trouve que c'était une palme totalement probable, souhaitable, possible. C'est un grand film d'une intelligence.
Pour un sujet très fort, il faut dire en deux mots, sur un repenti.
C'est un repenti, la reconstitution, effectivement, de cet homme qui a fini par balancer la mafia.
Histoire vraie, hein, totalement
histoire vraie.
Vrai.
Puisque c'est lié à l'assassinat et, du juge Falcon, on se souvient tous quand même de ces images saisissantes, sauf que chez Bellocchio, c'est à la fois dans la reconstitution, le réalisme, et en même temps, il y apporte, par ses scénaristes, par l'acteur, une dimension qui tient de la tragédie, de la comédia dell'arte, de l'ironie, de la bêtise humaine. C'est un grand film de 2h25, je ne sais pas pourquoi ils sont passés à côté.
Le grand choc de Michel.
Alors, oui, Bellocchio, extraordinaire. C'est un film qui, dans 30 ans, sera exactement aussi fort qu'aujourd'hui. Un classicisme totalement maîtrisé, comédien incroyablement choisi, mélange d'opéra et de réalisme, comme le grand cinéma italien. Ça, d'accord. Mais je voudrais tout de même signaler ce film qui a eu le prix de la critique internationale de Kantemir Balagov. Il y a 2 ans, le monde entier avait dit que Tesnota est un des plus grands premiers films des 10 dernières années. À nouveau, il revient avec Une grande fille sur 2 femmes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Leningrad. Et l'histoire d'amour de ces 2 femmes est un film extraordinaire, digne de Dostoïevski, d'une force inouïe, à nouveau hors compétition. Et ça, c'est vraiment un grand choc pour moi, parce que ce cinéaste méritait la compétition. Ça aurait été un des 4 ou 5 plus grands films de la compétition.
Nicolas.
Je suis tout à fait d'accord avec sur le traître
de Bellocchio.
J'ajouterais moi, il y a le Malik, moi, qui me reste vraiment, et je trouve que c'est vraiment un très grand film.
On ne refait pas à cette heure-ci.
On le refait pas.
À 20h56,
voilà.
Le débat.
On a parlé. Le Tarantino, moi, je trouve que Tarantino revient à ce qu'il a. Bon, on a parlé très brièvement de manière assez négative. Moi, je trouve qu'il revient à ce qu'il sait faire, à ce que j'aime chez lui, c'est-à-dire raconter déjà Los Angeles, qui revenir au bercail, raconter ce qu'il aime, c'est-à-dire le cinéma, et avec une humeur mélancolique qui me rappelle Jackie Brown, et je trouve qu'il a trouvé, je pense qu'il va remonter un peu le film d'ici la sortie, et je trouve que c'est vraiment le retour du Tarantino comme on l'aime, et qu'il ose quelque chose d'assez bouleversant à la fin. Moi, voilà, le Tarantino. Est-ce que je peux juste préciser un petit événement qui va avoir lieu, et parce qu'en fait,
ah oui, à Orléans, mais tu le sais, parce que l'émission se termine.
Voilà, mais c'est parce que c'est aussi
c'est
un coup
de cœur. Orléans va organiser le festival de Cannes de
1939, qui n'avait pas lieu à cause de la guerre, et donc ils vont organiser avec un jury présidé par Amos Gitaille au mois du 12
octobre,
au 17 novembre, du 12 au 17 novembre à Orléans. Ils vont organiser un festival de Cannes. Ils vont juger les films qui étaient présentés à l'époque.
On en reparlera au masque et la plume. Merci à tous. Merci en particulier Eva Bétan, merci Sophie Avon, Nicolas Chaler, Michel Simon, Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam ici au Festival de Cannes à la Technique, et je le remercie Florent Layani et toutes les équipes techniques toujours formidables de Radio France. La réalisation était signée de main de maître Xavier Pistuggia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume Eh bien, c'est mercredi prochain, c'est au Théâtre de l'Alliance Française. C'est donc le 29 mai pour Un masque et la plume consacré au théâtre, où il sera notamment question d'Isabelle Huppert, pas celle de Francky d'Irasax, mais celle de Bob Wilson, et du réalisateur Xavier Legrand de Jusqu'à la garde, mais qui renoue avec la scène dans Mademoiselle Julie. Et ne manquez surtout pas, après le flash, le formidable portrait d'Alain Delon par Laure Adler et réalisé par Liliana Lohm pour L'heure bleue.